je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais en tout cas, dès que je vais faire, par exemple, le 21 avril, le premier film que je fais avec conseiller de l'archive, tout de suite, c'est une masse de matière. Alors là, il n'y a pas Internet. Ça, c'est des images que je scanne chez moi, ce que j'ai chez moi. Pas tout, parce que j'en avais évidemment beaucoup plus, mais en tout cas, je prends tout ce qui est image chez moi et je scanne. Et tout de suite, il y a cet aspect masse. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, j'ai eu besoin de cette masse plutôt que, par exemple, résoudre la même équation. Ça veut dire l'irruption d'un événement politique dans ma vie personnelle et quelles questions ça me pose. Pourquoi je ne l'ai pas résolu, par exemple, en deux images? Une image de moi, une image de Le Pen. Enfin, ça aurait été là. Ou dans 10 images. Ou pourquoi, d'un coup, j'ai eu besoin de cette... Peut-être parce que, simplement, c'est peut-être idiot à dire, mais que pour moi, il y avait un trop-plein. Il y avait un trop-plein, un truc d'incompréhension totale de ce qui se passait, que ça faisait trop de questions dans ma tête et que du coup, j'avais ce foisonnement vient de là. Alors, je ne saurais pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marque quelque chose qu'on va retrouver dans tous les films derrière, d'archives. Ça veut dire qu'en tout cas, je ne m'intéresse pas à des images particulières, je m'intéresse à des représentations, à des groupes d'images à partir d'un sujet. Ce qui m'intéresse, c'est comment d'un sujet, les différentes stratégies de représentation de ce sujet-là. Et quand bien même une ou deux images en particulier vont m'intéresser, qu'elles vont commencer ou conclure un film, on va quand même passer par la multiplicité des images produites autour de cet événement-là.
Chapitre 1er, archives, masse critique.
S'il y a un truc de l'air du temps, de l'époque, c'est à la fois plus à inscrire du côté de l'esthétique des clips de l'époque. Où il y a eu un moment assez virtuose dans le clip, avec beaucoup d'argent, des choses qui s'essayaient avec des esthétiques très différentes. Et forcément, des histoires de cadence aussi, parce que le clip a une tendance à être un peu virtuose en termes de montage, ou souvent à des grammaires un peu rapides, surtout si on prend la techno, le rap ou des choses comme ça, qui existaient déjà à l'époque et qui avaient des fois des clips assez expérimentalistes. Et ça, c'est le deuxième point. C'est aussi un moment où, grâce à l'irruption du montage numérique, on a vécu un moment où de bascule du cinéma expérimental, qui est encore plus que le reste du cinéma lié aux techniques. Tout le cinéma est lié aux outils techniques, mais là, comme les expérimentateurs sont des gens qui sont un peu geeks et utilisent les machines, il y a eu un moment d'explosion très intéressante, foisonnante de l'expérimental. C'est vrai, il y a une espèce de creux après les années 70, virtuose, de Péloche. Les années vidéo sont assez mauvaises. Enfin, il y a des choses, évidemment, mais grosso modo, c'était un peu pas terrible. Et avec le numérique arrive tout un champ comme ça, foisonnant, de films courts, avec souvent effectivement des grammaires un peu rapides, etc. Il y avait un truc un peu d'air du temps, mais dans lequel, finalement, moi, c'est pas là que je m'inscrivais. C'est-à-dire le rythme ou cet aspect un peu contemporain de mon cinéma, pour moi, l'était absolument pas. C'est juste que je m'inscrivais. Ou mes référents, pas mes références, mais l'endroit mental dans lequel j'étais, c'était le cinéma des avant-gardes en général, qu'elle soit russe, que ce soit les années 60-70, en documentaire ou en expérimental. Donc des gens qui travaillaient des formes, et notamment, par exemple, soit l'archive, les cadences rapides, si on regarde certains films de Vertov ou Berlin, Portrait d'une grande ville, etc., on trouve déjà, dès les années 10 ou 20, des films excessivement véloces en termes de montage. Parce que c'était des gens qui essayaient d'inventer des grammaires qui ne soient pas des grammaires de réappropriation du théâtre ou de démonstration comme ça, d'une invisibilité du montage comme outil cinématographique. Et moi, à ce moment-là, je regardais beaucoup de ces films-là. Donc c'est là-dedans que je m'inscrivais, peut-être l'arrivée du numérique qui me permettait de m'inscrire aussi dans le champ du contemporain, dans un retour à ce moment-là dans lequel je m'inscrivais, mais c'était plus, j'ai jamais eu l'impression, par exemple, d'inventer ou d'avoir des grammaires inédites. La seule chose que je pouvais rajouter, c'est la précision des choses, parce qu'évidemment, quand on est en pellicule ou sur vidéo, faire des trucs qui changent toutes les deux frames, etc., d'être aussi précis dans les cadrages, c'était impossible manuellement. Là, le digital permettait ça. Quand arrive Internet, pour moi c'est évidemment un truc sidérant et c'est vraiment lié à chacun de mes films les étapes. Parce que travailler l'archive, ça voulait dire quand il n'y avait pas Internet, à part ce film que j'ai fait des images chez moi, c'est-à-dire comment on accède à des images, quand on fait des films dans son coin, en pirate, sans avoir de production, etc. Et même si j'avais eu de l'argent à l'époque, c'est-à-dire trouver autant d'images, vu le prix que ça coûte, les recherches, les copies, les droits, etc., ça n'aurait pas été possible. Mais en tout cas, c'est des films qui étaient difficiles à concevoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais fait après ce film-là, comme film avec des masses d'images, en dehors, évidemment, comme je travaillais déjà comme monteur, je volais les images, moi. Quand des gens utilisaient de l'archive, je récupérais les bandes, je faisais des copies, tout ça. Mais l'air de rien, c'est-à-dire que j'étais condamné à faire des films avec la matière que j'avais. Et quand arrive d'abord Internet, le web, c'est We Are Winning, Don't Forget. Parce que on pouvait. Donc, des gens commençaient à faire l'équivalent de blogs, de sites et tout ça, et on commençait à trouver, par exemple, des sites de gens politisés qui récupéraient les photos de lutte. Donc, on pouvait taper lutte, on pouvait taper Milan, enfin, par des mots-clés. On tombait sur des sites, et sur certains de ces sites, il y avait des photos. Il n'y avait pas Google Images. Hein. Donc, mais en tout cas, on pouvait d'un coup avoir des groupes du monde entier qui postaient les photos de leurs manifestations et tout ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai fait We Are Winning à partir de ce moment-là. Arrive derrière Google Images. Alors là, pour quelqu'un comme moi, Google Images, c'était totalement sidérant. Là, c'est Dies Irae. C'est-à-dire la possibilité de trouver 15 000 photos de routes, de chemins de fer. Alors, ça paraît... Aujourd'hui, ça paraît, on se dit que ça serait facile, mais à l'époque, c'était juste totalement inédit de taper le mot « route » en deux, trois langues et d'avoir des images du monde entier, et directement sans aller sur les sites pour les télécharger. Parce que même We Are Winning, c'est un millier d'images, le temps, Internet était lent, donc ouvrir les pages des sites, récupérer les photos, tout ça prenait un temps dingue. Là, d'un coup, Google Images, et cette idée d'une culture visuelle mondiale, c'est ça qui est apparu avec Google Images. On s'est rendu compte que si on prenait des thèmes très génériques, la manière de représenter était la même, partout dans le monde. Partout, il y a des gens qui font des photos de route qui sont les mêmes. Donc les paysages ne sont pas les mêmes, mais les photos sont les mêmes. C'est-à-dire que dès que ce n'est pas des photos d'auteurs, tout le monde a la même, il y a un universel, où, il y a quelque chose que l'on partage en termes de représentation, aujourd'hui, après la mondialisation, évidemment. Et voilà, ça me permet de faire Dies Irae. Et après, les autres étapes, c'est quand arrive la vidéo. Mais ça c'est après, parce que le temps que la vidéo soit d'assez bonne qualité pour qu'on puisse l'utiliser, là, il faut attendre 10 ans ou 15 ans. Donc là, c'est plus effectif dans où j'en suis dans mon travail, où à un moment, j'ai commencé à aller chercher les images de manière plus classique que par Internet.
Chapitre 2, ma stratégie, c'est la musique.
C'est des histoires un peu de hasard, en fait. Dans 21 avril, le montage des séquences, des images, est non pas décidé, mais il est automatisé. C'est-à-dire que quand j'ai scanné les photographies, les images, etc., j'aurais donné des noms correspondant à ce que c'était. Par exemple, si on prend la séquence avec les films, c'est le titre des films avec 1, 2, 3, quand il y a plusieurs photos, etc. Le montage consiste à prendre par ordre alphabétique les fichiers et les mettre dans le banc de montage. Donc c'est le hasard le plus pur en termes de montage, mais en le travaillant et en le regardant, je me suis rendu compte que le hasard jouait différemment. C'est-à-dire que des fois, il ne joue absolument pas, il ne se passe rien, c'est-à-dire que les images sont trop différentes, et que par moment, ça crée, c'est-à-dire qu'il y a des séquences plus facile à lire parce que d'un coup, il y a un élément commun, par exemple, une couleur commune, une forme commune. Et que le hasard, que dans ce hasard-là, il y a des moments de fluidité. Et j'essaie de comprendre comment, pourquoi d'un coup, il y avait du mouvement qui se créait à l'intérieur de ça. D'images qui ne sont pas faites pour être animées. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé à préciser sur We Are Winning, où j'ai commencé à mettre dans l'ordre les images, mais dans l'ordre géométrique. de dessiner des liens en disant « Ah, là, les manifestants, là, ils sont face. » Et ensuite, toutes les photos sont classées jusqu'au profil, jusqu'au dos, et on revient, c'est des mouvements circulaires. Et après, le jeu pour moi jusqu'à 200 000 fantômes, technique, c'était de réussir à aller jusqu'au plus précis de ça, c'est-à-dire de lier à la fois un axe chronologique et un axe spatial, et de créer un mouvement avec des images qui ne sont pas faites pour être animées. Autant j'adore la prouesse technique, le jeu technique, etc. Mais contrairement à certains types d'expérimental, si on prend l'expérimental américain pendant les années 70, non pas l'expérimental européen, mais l'américain qui était très abstrait et qui était dans une pure idée de la forme. Alors ça fait des films magnifiques, hein, l'endroit qui me manque, moi, en tout cas que je ne peux pas faire dans mon travail, c'est la technique. Pour la technique ne m'intéresse pas. Elle fait partie de mon travail à moi. La virtuosité, ça me concerne moi, ça ne concerne pas le spectateur. Parce que tout ça, malgré tout, est un outil pour interroger le monde, interroger dans son mode contemporain, dans son passé, dans des événements qui, pour moi, me posent question. Et la technique est une manière de poser des questions. Qu'est-ce qui reste quand je casse toutes ces images? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce groupe-là qui ressort du fait que je les détruise? Que je casse la première enveloppe, c'est vrai qu'un mouvement, ça peut être un mouvement d'analyse d'une image dans lequel on va rentrer. Là, c'est Godard, je vous salue Sarajevo. C'est-à-dire la technique lui permet de passer du temps, d'aller chercher des fragments. Ce que je vais refaire avec, enfin, je connaissais pas le film à l'époque, mais en tout cas, ce que je rejoue avec Utel était criminel. C'est-à-dire finalement assez peu d'images qui reviennent. On se rend compte au bout d'un moment qu'elles se répètent parce que on rentre dans l'image. Ça, c'est un mouvement. La technique permet de rentrer dans l'image. Et d'une certaine manière, de montrer aux spectateurs, cette technique transcrit la manière dont soi-même on a regardé ces images, qu'on a pris le temps de les voir plusieurs fois, que d'un coup l'œil a vu des détails qui sont signifiants et le montage va le traduire. Et il y a d'autres moments, ça peut être de casser la coquille, quoi, et d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et est-ce que quelque chose résiste? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de l'image? Qu'est-ce qui peut la déborder? Qu'est-ce qui peut la contraindre? Et c'est pas si abstrait que ça. En fait, ça paraît abstrait. Mais on se rend compte qu'effectivement, on voit des choses différentes selon la manière dont ces images sont montées. Si on prend les groupes, c'est vrai qu'on se rend compte qu'à un moment, il y a du commun dans ces images. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on représente, si je prends We Are Winning, que le travail soit représenté toujours de la même manière? Ça apparaît évidemment comme une construction. Tous ces gens, ces photos de gens, il y a de la construction. Et on voit, par exemple, dans les images de manif, qu'il y a de l'anarchie, qu'il y a du mouvement, qu'il y a moins de cadrage, qu'il y a plus de force de vie, d'une certaine manière. Alors, ça pousse à des choses un peu abstraites, parce que c'est de l'ordre du regard, et que dès qu'on met un mot, ça paraît un petit peu... C'est le problème qu'on a avec les images, quoi. Les mots paraissent toujours un peu incomplets, ou un peu vains, ou un peu trop, mais en tout cas, ça permet de se confronter, d'essayer de chercher ce qu'il y a dans ces images-là. Et pas forcément que dans ce qui apparaît au premier plan. La musique, elle vient quand même dès le début. Évidemment, quand on travaille, au début, je travaille la photographie, donc des images qui n'ont pas de son. Et pareil sur les archives, beaucoup d'archives n'ont pas de son. Si on prend avant que le son soit synchronisé à l'image, beaucoup des archives filmées sont des images muettes. Donc du coup, la question du son se pose très très vite avec des stratégies très différentes. La mienne, c'est la musique. Mais dans 21 avril, qui est pour moi une espèce de brouillon plus qu'un film achevé, je monte la musique parallèlement à l'image, c'est-à-dire une musique qui est heurtée, qui est découpée en samples très courts, ça fait pas de la techno, mais ça fait en tout cas un truc qui n'est pas linéaire. Et je me rends compte que c'est une erreur parce que il faut contrebalancer ce que je vais faire avec We Are Winning et avec la suite, contrebalancer pas la virtuosité, mais la vélocité du montage, qui est très fatigante pour l'œil. Il faut contrebalancer avec une musique linéaire. Sinon, on est tout de suite, comment dire, un peu dans une esthétique anarcho-punk qui fait que c'est un peu, pour le coup, très clippé, sympathique, à part que c'est assez violent à recevoir, en fait, et que selon certains sujets, ça peut pas marcher. Et que la linéarité d'une musique fait que ça nous libère l'œil. Et que ça devient aussi très rapidement la possibilité à la fois de ramener de la narration, du sentiment, et sur certains films, de l'énergie. Bon, l'Europe, pour moi, c'est la musique de la lutte, très clairement, et surtout certains groupes, si on prend Godspeed dans We Are Winning, ou ce type de groupe, qui se revendiquent comme des groupes anarchistes. We Are Winning, par exemple, qui est juste après, c'est vraiment, là, c'est les hasards, pour le coup, c'est Godspeed. J'avais ces images, j'ai regardé, j'avais pas de film. Je vais au concert de Godspeed, arrive ce morceau que je vais utiliser, finalement, et là, ça faisait plusieurs jours que j'étais en montage, j'ai rien avancé, et sur le morceau, il y a tout le film qui apparaît. Et je rentre à la maison et je fais We Are Winning. Et après, c'est une pratique que je garde. C'est comme si le rythme du montage suivait un instrument qu'on n'entendrait pas. Le rythme visuel se joint à ce qu'on entend. Au lieu d'être calqué tandis que le clip, on est sur les coups forts de la musique. Il faut que le clip soit efficace, donc il faut qu'on soit en rythme pur sur la batterie ou sur la basse. Et si on prend les films plus longs, par exemple, quand il y a de la musique... Si on prend Retour à Reims, à la fois dans le film, il y a très peu de moments musicaux, mais ils sont nécessaires parce qu'ils nous font respirer. On a besoin, dans ce lot de paroles, de respirer, et que la fin, la musique est très clairement une libération du film. On n'a plus de paroles. Quand il y a des paroles, elles sont émises par les archives, par les gens qui parlent, et ils parlent avec la musique, et elle amène une espèce comme ça d'envolée, quoi, d'envolée lyrique, mais aussi politique. Faut sortir de Le Pen et tout ça, quoi. Faut se laver la tête et faut se mettre à courir, quoi.
Chapitre 3. Des images négatives.
Je crois beaucoup au travail de l'invisible. C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans un film... Alors, il y a plusieurs manières de l'entendre. Il y a plusieurs types d'invisibles. Enfin, de choses qui sont... que je ne donne pas à voir au spectateur, mais pourtant dont je sais que ça agit sur le film. Et on a souvent l'impression que le cinéma, c'est tout ce qui est visible, et en fait, c'est aussi tout ce que l'on cache et tout ce qui n'est pas visible. Alors, je truque beaucoup les images, je les retouche beaucoup, etc. Donc, ça apparaît être des images souvent naturalistes. C'est hyper truqué, mon cinéma, et ça se voit pas. C'est pas revendiqué, ça. Donc, dans l'aspect technique, il y a beaucoup de choses. Après, il y a les traces évidentes d'images fantômes. Si je prends Diaciré, par exemple, il y a des moments où on va rentrer dedans, etc., où ça crée des émotions, parce que même si on ne voit pas, c'est des images... de lieux de torture, des images dans les tunnels, etc. J'ai mélangé à ces images de rien, en fait, des images de route, etc., aussi des images de lieux excessivement signifiants, que le spectateur ne sait pas. Mais moi, je sais d'où viennent certaines de ces images, et je sais que leur poids, en fait, c'est-à-dire même si elles sont inidentifiables, le poids qu'elles ont, parce qu'elles ont été photographiées à tel ou tel endroit, se porte à l'intérieur. 200 000 fantômes est un film très fantomatique, c'est-à-dire que chacune de ces images est particulière. C'est-à-dire, c'est une image d'Hiroshima, ce n'est pas une image de n'importe où ailleurs, et que, même si c'est qu'un immeuble, etc., chacune est porteuse déjà d'une part comme ça d'histoire disparue, que dans le film, toute la fin du film est totalement truquée. Si vous le regardez, les images, elles sont où j'ai effacé totalement tout signe de vie, toute la fin du film. Personne ne le voit, qu'il n'y a rien, et c'est ce qui fait que quand on est devant ces images... Il y a un endroit de vie, de mal-être, mais simplement parce que les images ne sont pas logiques, il n'y a plus d'humain dessus. Et il y a plein, voilà, donc ça c'est des choses qui fonctionnent comme ça. Après, il y a toute la part du travail, si on prend des films plus historiques, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, je sais d'où viennent chacune des images que j'emploie. J'ai cherché qui sont les gens qui les ont faites, tous les détails qui sont dessus. C'est, je ne connais pas toutes ces images-là, mais j'en connais énormément. Pourtant, mes films ne donnent aucune indication. Mais toute cette part du travail, elle est là. La part des expériences que j'ai pu rencontrer des gens, si on prend Diaciré, si on prend 200 000 fantômes, pour moi, c'est hanté de toutes les expériences des survivants.
皆さんこんにちは。笠岡貞と申します。今日は私の話を聞いてくださってありがとうございます。とても幸せです。私は原爆の時に12歳、中学の1年生でした。その時原爆によって両親を失ったんです。当時どうであったか、両親の様子がどうであった、私はどう思った、
Hiroshima, mon amour, arrive pour moi une fois que j'ai décidé de faire un film à Hiroshima. Par chance. C'est bien de ne pas avoir une culture totalement exhaustive, ça permet ça. Mais en tout cas, ça avait validé, ça m'avait fait comprendre, en fait, ce film, pourquoi je passais du tel été criminel à 200 000 fantômes, pourquoi je parlais des femmes tondues, je passais des femmes tondues en France à Hiroshima, avec un certain esprit de logique, totalement illogique, mais en tout cas, il y avait un... Évidemment, quand je vois Hiroshima, mon amour, il fait le même lien, et ça me permet de comprendre ce que je cherche dans les deux événements, c'est la question de la revanche, de l'acte gratuit de revanche, qui est à la fois cet acte minuscule, tout petit, de prendre trois nanas et de les tondre en public, là, toute cette bande d'alpha, là, de mecs et de nanas aussi qui se mettent autour et qui ont l'impression d'être plus blancs que blancs parce qu'ils ont réussi à prendre trois nanas isolées qui ne pouvaient pas se défendre, leur tondre. Voilà. Et Hiroshima, c'est la même chose, c'est-à-dire Hiroshima, en termes stratégiques militaires, n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Le Japon était déjà exsangue. Ils avaient demandé quand même la cessation de la guerre 6 mois auparavant. Les Américains le savaient. Rien ne justifiait Hiroshima, à part le fait d'un essai technique, scientifique, sur des salles chinois, japonais, des jaunes, quoi. Et qu'on pouvait tuer 100 000 personnes à but d'expérience. Et de toute façon, ils nous avaient fait chier pendant la guerre, ces espèces de... Et qu'on pouvait... C'est un geste totalement gratuit. Totalement gratuit. Et les deux, c'est des gestes incompréhensibles qui nous disent toute la petitesse de l'être humain. Bon, en tout cas, le hasard, pour moi, Hiroshima, s'ancre dans le fait que j'achète un livre par hasard dans une librairie d'occasion à 1 €, un bouquin sur Hiroshima. Je lis toujours pas mal de bouquins d'histoire. Je connaissais rien à Hiroshima, j'achète un livre, quoi. C'était 1 €, je le prends. Quand je le lis, c'est une des fois, je pense, que je vais les plus... honte de ma vie, parce qu'en fait, c'était un témoignage d'un survivant. Et j'ai eu tellement honte de ne pas savoir. C'est-à-dire, on ne me l'a pas appris à l'école, on ne me l'a appris nulle part. Je n'ai pas fait l'effort de chercher ce que ça voulait dire Hiroshima, à part le peu qu'on en sait d'une bombe, voilà, à la fin de la guerre. Et à partir de là, j'ai commencé à lire beaucoup, à essayer de comprendre ce qui s'était passé, lire des témoignages, et un jour, ça a abouti à 200 000 fantômes. Le passage se fait par un livre. Et le film est un résultat. Le film est comme un... Contrairement à Utel était criminel, qui est un film un peu démonstratif, on va dire, un peu énervé quand même. Là, c'est un film de retenue. C'est un film qu'on fait quand... C'est un acte de deuil. C'est comment déposer toute cette mémoire d'un coup qu'on reçoit. C'est un petit geste, en fait. C'est un petit geste de recueillement et de revoir, en fait. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ça et il faut le déposer quelque part. Et moi, je suis cinéaste, donc mon geste, c'est de faire un film. Mais c'était un film qui n'avait aucune espèce de prétention didactique, partage mémoriel, etc. C'est un film excessivement intime. Et le fait d'aller là-bas, de passer du temps, c'est devenu un lieu important de ma vie, très concrètement, et sur lequel je suis revenu avec Lumière d'été, qui hante d'autres des films, hein, hindous. Dans Under Twilight, il y a des images de Leno Laguet. J'y retournerai faire un autre film, c'est à peu près évident. Il y a quelque chose d'important pour moi. Et c'est vrai qu'en termes d'image, parce que c'est aussi là le début, par exemple, comment ça devient un film et pourquoi on s'attache. En tout cas, moi, forcément, les images, elles ont un intérêt. Elles agissent. Et les premières images que je vois, C'est les archives des Américains quand ils débarquent. Donc, ce n'est pas les Américains qui ont géré la ville, hein, c'est les Australiens. Mais en tout cas, avant que les Australiens arrivent, les Américains débarquent et il y a un film qui existe, un peu scientifique, qui est muet, où on voit un jeune Américain qui montre à la caméra les différents types de dégâts qui ont pu être faits. Comme pourquoi c'est brûlé d'un côté, c'est pas brûlé de l'autre, que tel bâtiment est tombé de ce côté-là. En fait, ça permet d'expliquer que le souffle venant de là. Donc, c'est assez scientifique, quoi. C'est pour regarder les résultats. Et à un moment, il est sur un pont, il y a une forme blanche. On ne sait pas ce que c'est. Il met ses deux pieds, il met de la craie. Et en fait, on se rend compte que c'est l'ombre d'un être humain. Et en fait, là, on se rend compte que Hiroshima, une partie des gens qui ont disparu sont des gens qui ont simplement disparu au moment de l'explosion, mais qu'on laissait une trace invisible. Enfin, qu'on laissait, ils ont fait comme une trace photographique. Et ces traces-là, il y en a eu plusieurs en ville. Et ça veut dire d'un coup une absence, une image. Ça a créé des images. Leur disparition a créé des images négatives. Et c'est une chose dont je ne me suis jamais défaite, en fait. Ça veut dire que finalement, le fait d'être doublement victime, c'est de subir les dégâts de la violence et de disparaître. Et là, ce qu'on voit à travers eux, c'est tous ceux qui n'ont même pas laissé de traces, quoi. Et des images comme ça, elles n'ont qu'une survie, elles ne sont pas opérantes comme, je ne sais pas, les images fabriquées par le pouvoir, par la télévision, etc. Ça, c'est des petites images qui disparaissent en même temps que les gens disparaissent.
The empty streets, the songs of twilight, the clouds at rest, the church bells chiming, a scarecrow shudders, and songbirds tremble. I looked at you and saw it's time.
Chapitre 4. La dialectique peut-elle casser des briques ?
Si tu te projettes après tes études et que tu as alors le choix entre un travail que tu aimerais faire mais qui est très mal payé ou un travail qui ne t'intéresse pas du tout mais qui est très bien payé, tu choisirais lequel ?
Je pense que maintenant ce qui est important c'est l'argent, donc je prendrais le travail qui rémunère le plus. Même si ce sera pas intéressant, faut faire des concessions.
Ce serait quoi ton travail idéal ?
Pour moi, ce serait le cinéma, mais je sais que c'est difficile.
Et tu serais prêt à abandonner le cinéma pour être comptable ?
À mon âge. Dire ça, enfin, je peux pas affirmer que je pourrais quitter quoi que ce soit pour être comptable, mais ouais, je sais pas, franchement.
Il me semble pas qu'on fasse des films comme ça avec des présupposés. Ou alors on est dans la caricature de j'y vais parce que les jeunes c'est trop l'espoir, c'est trop cool, etc. Ils sont trop chouettes. Ou les jeunes ils ont des nouvelles manières de penser la politique. Ou au contraire les jeunes c'est tous des cons. Bon, enfin, en tout cas, moi, je ne rentre pas dans un espace en me disant... Et puis, déjà, on a un groupe, il y a autant d'individus et de différences. Moi, j'avais pas de présupposés du tout. J'avais même pas d'idée du film qu'on allait faire ensemble. Donc, le fait que ça parle de politique, ça vient d'eux, en fait. Moi, le projet de base était... Mon hypothèse, pas le projet de base, une hypothèse de base... n'était pas possible avec ce groupe-là, ça leur parlait pas, etc. Et donc, la politique devient un sujet quand, pour mon hypothèse de départ, je leur ai montré beaucoup de documentaires dans lesquels des gens prenaient la parole. Un cinéma pas d'observation, un cinéma d'interview, on va dire, avec des films très différents, d'époques très différentes, sur des gens dans des hôpitaux psychiatriques, par exemple, Et du coup, ils étaient assez surpris de découvrir un cinéma comme ça qui leur donne accès à des univers précis avec des gens qui parlent de leur, d'où ils sont, etc. Et parmi cette série-là, à un moment, je leur montre une série de films autour de 68 du cinéma ouvriériste français. Ça leur a, une partie d'entre eux, ça les a beaucoup marqués parce que c'était des conditions de vie qu'ils pouvaient partager. C'est-à-dire, c'est la France. C'était loin, mais pas si loin. Leurs parents travaillent, donc ils voyaient ce que ça voulait dire, le travail. Et ça allait... Et c'est devenu le sujet parce qu'ils ont eu de l'intérêt pour ça. Parce que s'ils rejouent ça, ils vont apprendre quelque chose. Est-ce qu'en réincarnant, en filmant ça, on apprend quelque chose? Ça, c'est devenu mon hypothèse parce que j'avais envie de les aider à aller vers ces films-là. Et je ne suis pas prof, je ne sais pas trop comment les rendre actuels pour eux. Et ça devient nos défaites. Par la découverte, enfin le film, ça devient pas une défaite, ça devient ce film-là, quand au moment du tournage se passent deux choses. La découverte que la manière dont ils réinterprètent les films est assez extraordinaire, ce qui n'était pas le cas juste aux dernières répétitions, c'est encore un peu fragile, ça veut dire que d'un coup, ils jouent comme des comédiens, non plus comme des amateurs. La plupart du temps, c'est quand même assez fou, la manière dont ils ont attrapé les voix, tout ça, les gens qui filmaient, tout s'est excessivement bien passé. Et que ces interviews ont donné ce qu'elles ont donné, qui était une vraie surprise pour moi, puisque il me semblait que à chaque fois qu'on a choisi les extraits, ils ont choisi les extraits, eux, à partir d'un corpus, on a parlé de chacun de ces extraits, on a parlé de ce que ça disait, etc., et que je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne m'avaient pas écouté, mais que je n'avais pas présupposé qu'ils ne m'écouteraient pas, mais en fait, on se rend compte qu'on est un peu naïf une fois qu'il y a des choses se passent, que finalement, j'étais un prof. J'étais au bureau, on était dans la salle de classe, on n'a jamais pu faire les ateliers ailleurs. Leur prof de cinéma n'était pas là quand moi j'y étais. Donc en fait, j'étais le mec qui faisait un cours d'histoire. Donc bon, on n'écoute pas. Et en fait, quand c'est la première fois qu'on apprend quelque chose à quelqu'un avec d'un coup beaucoup de mots, quoi, capitalisme, le marxisme, les grèves, les mots, enfin tout, j'étais un peu présomptueux de penser que juste faire une discussion comme ça allait suffire. Donc en fait, là, ils n'ont pas retenu ce que j'avais dit. Je ne leur ai pas donné assez de liberté ou de les sentir assez en confiance pour qu'ils me posent la question en me disant « on n'a pas compris » a posteriori. Et que finalement, les interviews, alors qu'on a passé 6 mois à travailler ces films, etc., quand on fait des interviews, je me rends compte qu'en fait, même moi, je n'étais pas capable de leur apprendre. Même moi, j'étais un mauvais vecteur. Et ça a donné ces interviews qui n'étaient pas du tout prévues pour être comme ça. Pour moi, ça allait être des... Ce que je voulais, c'était qu'à partir de ça, ils me disaient « toi, pourquoi tu pourrais lutter ?» Mais pas que même l'idée de la lutte, elle était abstraite. Tout était abstrait. Est-ce que moi, ça m'intéressait de savoir si à 17 ans, on se dit, est-ce que, enfin, nous, à 17 ans, une partie d'entre nous était déjà au JCR ou des trucs comme ça. Pas moi, mais je savais que ça existait. La question de savoir si on voulait syndicat, on aurait répondu. Là, je leur pose la question, même si j'aimais bien ce côté un peu rétrograde d'un coup de parler des syndicats. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un syndicat. Quand je leur dis, c'est pourquoi un syndicat pour toi, j'attends pas la définition, mais pour eux, c'est un truc de vieux, je m'attendais, c'est un truc de vieux, ça sert plus à rien aujourd'hui, mais je m'attendais pas à ce qu'ils disent, ben, je sais pas ce que c'est un syndicat. Donc le film est une surprise, voilà, jusqu'à la fin, avec après l'occupation du lycée qui réouvre, enfin qui finit le film, mais qui réouvre sur autre chose. Mais je pense qu'il faut pas avoir trop de présupposés quand on travaille avec des gens.
Enfin, sérieusement, je veux dire que si j'avais du courage, ben, j'irais dynamiter la Sorbonne. Le Louvre, la Comédie Française.
Ah oui ?
Oui. La Révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse. Et avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La Révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Moi, je suis en classe de philo.
Dans la boîte.
J'ai beaucoup lutté contre ce titre parce que j'essayais de prendre des phrases, tirer des archives ou des choses qu'ils pouvaient dire. Mais dès que c'était... ça appelait à quelque chose de positif, d'une certaine manière, c'était mentir. Et du coup, je voulais aussi un titre qui pose un problème. Pas à eux, hein, mais aux spectateurs. Ça veut dire que quand je passais du temps avec eux, c'était évidemment très très clair que ces gamins, on les a laissés tout seuls. Donc à part un élève, tout ça leur passait au-dessus. Et personne n'aura jamais parlé de ça avant. Et là je me dis, il y a quand même un problème, comment on peut, si on ne leur donne pas de clé pour qu'eux-mêmes puissent devenir adultes, et même l'école, on est censé former des citoyens. Ils savent même pas c'est quoi la gauche, la droite, c'est quoi... Personne ne leur apprend ça. Et du coup, il y a un endroit d'échec collectif. Et nos défaites, c'est vrai qu'après, le problème avec un titre comme ça, c'est que certains spectateurs se sentent très agressés, parce que personne ne veut se sentir responsable de quoi que ce soit en général dans la vie. Donc c'est toujours la faute des médias, la faute de l'école, c'est la faute de tout le monde sauf de soi. Moi, je pense que c'est une faute collective. Moi, le premier, en tant que quelqu'un qui passe 6 mois avec eux. Et que certains ont mal lu le titre en pensant que du coup, c'est une critique de ces gamins. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas épargné, en fait, leurs paroles, etc. Donc des fois, j'ai mis les moments où ils se trompaient, plutôt que mettre que les moments un peu gratifiants. Donc du coup, certains pensaient que nos défaites, c'était... Eux, c'était le symptôme, et que du coup, c'est vraiment des teubés. Ce que je montrais, c'était des teubés. Je fais, non, c'est... Eux, ils s'en sortent, hein. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, dans le film, je vois qu'ils s'en sortent. Mais voilà, et donc, nos défaites étaient un titre qui rompait. Enfin, ça ne pouvait pas être un titre qui nous flatte.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voici un résumé des informations que nous avons à 20h.
Il faut rajouter quelque chose. Par exemple... Mais le calme ne serait qu'apparent, tout ça bougerait énormément.
Du travail et du pain, 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 du travail et du pain.
Ignore cette orangeade, elle est chaude.
Mais monsieur.
Oh, j'en ai trouvé une.
Grandiose, une vraie casquette de salopard.
Mon grand-père me raconta un jour qu'alors qu'il circulait boulevard Saint-Germain à 5h du matin pour se rendre à son travail, des bourgeois avinés, sortant d'une soirée ou d'une boîte de nuit, lui avaient crié « Salaud de pauvre !» Quand mon grand-père parlait de lutte des classes, cela avait un sens très concret pour lui. Il était communiste, comme les bourgeois sont de droite. Cela lui paraissait naturel, comme un élément de l'appartenance de classe reçu à la naissance avec le patrimoine génétique. Comme mon père, il commençait souvent ses phrases par nous, les ouvriers.
Quand on voit ces images de manif, elles sont emplies des images qu'on a vues avant, et notamment des images de la première partie, des images des ouvriers, etc. C'est-à-dire que là, on revoit des corps. Moi, je vois la suite. Enfin, je vois surtout quand c'est les gilets jaunes, plus que d'autres luttes très parisiennes, mais en tout cas quand c'est les gilets jaunes, quand c'est à la fin, que ça chante, que ça parle de la révolution, que ça chante une chanson de la commune, moi je le réinscris directement avec le début du film. Si on n'avait que la fin, ça tiendrait en tant qu'objet. Mais par contre, ça dépendrait de chaque spectateur ce qu'il va réincorporer à l'intérieur comme image. Là, il y a des images forcément que tout le monde a en commun puisque tout le monde sort du même film. Donc ça doit changer. Après, comment exactement ça fonctionne et tout ça, je ne sais pas. Souvent, moi, la fin du film, c'est l'endroit qui m'a fait commencer le film. Et donc, du coup, le 21 avril, j'ai fini spontanément, on va dire, par Le Pen. Sans plus que ça. En tout cas, c'est vrai que là, ça permet d'un coup... la question, c'était, ben, du coup, pourquoi on s'est tapé toutes ces images-là pour finir à ça ? Ce qui est exactement ma question. C'est-à-dire, pourquoi tout ça ? Si on en arrive encore là, quoi. Mais c'était pas conscientisé de finir par lui. Arrive We Are Winning. We Are Winning, le problème que j'ai, c'est que je finis par la mort de Giuliani. Et quand je monte, je me dis qu'on peut pas finir par la mort. Et pas finir par la mort d'un manifestant. C'est-à-dire, ça serait comme une double mort, quoi. Il meurt et toute l'énergie qu'on a pu avoir dans le film, qui est comme assez portée, en fait, peut pas se résoudre à ça. En tout cas, sur les films de lutte, c'est pas vrai sur Utel était criminel, c'est pas vrai pour 200 000 fantômes, finit quand même avec les vivants qui reviennent, mais il faut absolument un principe de vie, un principe de force ou d'optimisme, je sais pas comment je pourrais le définir, mais qu'on ne peut pas faire des films qui abattent. Il faut que ça porte un film. Le minimum qu'on doit dans un moment dans lequel on est, c'est d'arrêter de se complaindre, de se plaindre tout le temps, de dire que rien ne va. On est obligé de faire des constats. Moi, je fais des films, ils sont un peu durs quand même. Si on prend Retour à Reims, c'est quand même l'arrivée de Le Pen, l'installation de Le Pen, et on est très clairement toujours dans le même segment historique. Mais est-ce que je clôt un film comme ça sur la défaite d'une lutte de classe qu'on a perdue avec l'irruption du Front National et la désespérance à gauche ? Je me dis que politiquement, c'est pas possible, ça. Enfin, moi, c'est pas possible. Il faut absolument ramener un endroit d'espoir, de lutte. Et quand bien même ça serait excessivement minoritaire, il faut quand même finir par ceux qui ne sont pas encore morts, qui ne sont pas encore déglingués du cerveau et qui continuent de se battre. Ça, c'est le... il faut absolument finir par quelque chose de... Une jeunesse allemande, c'est la même chose. La dernière image, par exemple, on a la mort des protagonistes, pris en charge par Fassbinder, donc ça amortit légèrement, mais c'est quand même une séquence qui est... Quand sa mère, la fin de cette séquence, c'est quand même sa mère qui lui dit qu'il faut qu'il ait un homme fort au nouveau pouvoir. Donc ça, c'est pas la dernière image, en fait. À ce moment-là, il y a un effet de cut, mais on réouvre sur les voix off des étudiants, au générique. Et la dernière image, c'est quand ils disent qu'il faut retourner, collectivement, ils disent tous qu'il faut retourner, je sais plus quel est le mot de la phrase, mais grosso modo, il faut retourner vers le prolétariat pour recommencer la lutte. Et on voit cette manifestante anti-Vietnam qui est allée à la sortie de l'usine. Ça, c'est la dernière image du film.
Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux, ou dans France Dimanche. C'est quand même formidable, c'est notre gueule, non?
Il y en a qui sont pas
conscients. Non, c'est pas sensationnel, c'est la classe ouvrière. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience. Que les gens, qu'il n'y a pas que les conneries qu'on nous raconte, dans France Dimanche ou dans Ici Paris, qui sont belles. Mais dans ce que fait la classe ouvrière, enfin, perdre 5000 francs, parce que des copains ont été licenciés. Et encore aujourd'hui, devoir leur verser une somme d'argent pour que ces gars-là aient un salaire d'assuré. Si on pouvait cultiver ça un peu. Ça, le savait, ça. C'est pas de la culture, ça? Et là, je veux dire au patron que on les aura. Parce qu'il y a cette solidarité qu'ils ne savent pas ce que c'est. On vous aura. Oh, on n'en veut pas encore terriblement beaucoup à ceux qui se prennent pour des patrons et qui ne le sont pas. Mais ceux qui détiennent les capitales, le capital, on vous aura. C'est la force des choses. C'est la nature. Et à bientôt, j'espère.
Épilogue. Conditions de production.
Très peu de choses sont lors de la décision. Puisqu'en fait, la faisabilité d'un film dépend des moyens qu'il nécessite pour être réalisé. Donc c'est très vulgaire, mais on parle d'argent. Le temps du cinéma est un temps qui est très long. Et d'autant plus quand on fait un cinéma minoritaire, évidemment, qui n'est pas un cinéma grand public. Donc il y a un temps de chaque projet qui est... c'est un vrai exercice de patience. On compte en années. Je ne sais pas, une jeunesse allemande, c'est 10 ans. Là, je travaille sur un film depuis 6 ans, qui sera le prochain. Enfin, c'est des durées excessives. De temps en temps, si on ne sait pas pourquoi, ça va hyper retour à Reims. Ça s'est fait très, très vite. Bon, en tout cas, il faut faire avec ça. Et donc, il faut jongler. Donc, moi, mon exercice pour ne pas désespérer de ce temps-là, c'est je tuile les projets. C'est-à-dire j'ai toujours plusieurs projets. De toute façon, aussi, le fait que certains... Il y a toujours un projet avec de l'archive en cours. Chaque projet d'archive nécessite, sauf Retour à Reims, parce que ça vient d'un livre, mais si je prends les autres films, ça passe par des mois entiers de lecture. C'est-à-dire chaque film nécessite un travail très universitaire, quoi. Faut lire, faut connaître l'histoire. Il faut faire les recherches d'images, souvent connectées aux recherches historiques, ça va ensemble, ça permet ces recherches-là de trouver des films, mais aussi de comprendre ces films-là. De ces films-là, on fait de nouvelles recherches sur les gens qui les ont produits. S'il y a un truc qu'on ne comprend pas, il faut essayer de comprendre ce que c'est, donc on lit d'autres livres, et ça prend un temps, surtout quand c'est en langue étrangère, évidemment. J'aime bien faire des films dans d'autres cultures que la mienne, donc du coup, tout ça prend plusieurs années aussi. C'est-à-dire, même si j'avais l'argent, il me faudrait quand même plusieurs années pour le faire. Donc en fait, je tuile les projets, donc j'ai toujours plusieurs films en même temps. Ça, c'est une des choses. Après, je me donne des règles, ça veut dire de... qui sont à... qui essaient de répondre. Alors, c'est pas une réponse directe, parce que... Mais j'aime bien l'assertion de Godard sur le manifeste d'Iga Vertov. Un, il faut faire des films politiques. Deux, il faut faire politiquement des films. Cette chose-là, que tout le monde aime bien noter, c'est-à-dire, comment on la met en place? Comment on la met en place? Ça veut dire quoi, faire des films politiquement, par exemple? Donc chacun pense avoir sa solution. Enfin, la plupart s'en foutent, hein, ils font pas des films politiquement, déjà. Même des gens qui font des films politiques, hein. Si on peut bien en vivre, tant mieux, ça rajoute... c'est plutôt pas mal, mais moi, une des manières, par exemple, de répondre à ça, c'est de faire des films le moins coûtant possible. C'est-à-dire, on fait des films avec de l'argent public. Est-ce que je peux faire un film de... Je vais prendre un mauvais exemple parce qu'il est trop contemporain, mais essayons de l'abstraire. Est-ce que ça a un sens de faire un film à 4 ou 5 millions aujourd'hui pour montrer que le travail ouvrier, que le travail des femmes de ménage, que le travail des gens dans les mines, c'est difficile? Moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas qu'on y ait besoin de 4 millions d'euros, de payer des comédiens 100 000, 200 000 euros pour qu'ils jouent des rôles de travailleurs, pour montrer que c'est difficile pour un public petit bourgeois de centre-ville qui a besoin d'un film pour se rendre compte que c'est difficile. Et on parle de 4 millions. Bon, évidemment, ce n'est pas 4 millions d'euros d'argent public dans ce cas-là, mais c'est quand même une majorité d'argent public. Et on donne de l'argent, avec les deux, je ne sais pas, sur 4 millions, s'il y a la moitié, s'il y a 2 millions d'argent public, mais on en fait des actions pour ces gens-là. On en crée de l'emploi. Et c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile. Enfin, il y a un truc que je ne comprends pas. Et pourtant, on pourrait dire, oui, mais c'est important de le faire, c'est politique, etc. Mais il y a un truc qui me semble faux. Et quand on parle de cinéma, le problème, contrairement à d'autres arts, c'est qu'un petit budget en cinéma, c'est énorme. C'est-à-dire, moi, je compte en SMIC les budgets. Un film, comme je l'ai fait moi, à petit budget, c'est déjà... Mes parents n'auront jamais gagné ça dans leur vie, quoi. Moi, ça me pose... Donc, comme ça me pose problème, cet argent-là, eh ben, j'essaie d'être au minimum surtout, quoi. De pas demander plus que ce que j'ai besoin. Donc ça se transforme, il fait que je travaille énormément, que je fais le boulot des assistants que je paye pas, que j'ai pas, je fais toute la post-prod chez moi, j'économise au maximum mon temps de travail pour éviter que ça coûte de l'argent, non pas à mon producteur, mais à la société, puisque c'est de l'argent public. Et il y a déjà, même en étant minimum, c'est déjà énorme, quoi. Donc ça, c'est des choses que je prends en compte et qui ont un impact très concret sur la fabrication des films, du quotidien, qui fait que, je ne sais pas, nos défaites, ça a coûté 30 000 euros. Donc oui, c'est sûr, le film est fragile, mais faites un film avec 30 000 euros. Je veux bien. C'est sûr que si j'avais 3 millions, ça serait beaucoup moins fragile que ça, mais ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait strictement aucun sens. Et voilà, ça, c'est l'endroit où je peux agir, c'est juste de ne pas dépenser l'argent, au moins, pour rien, quoi.
Nous qui cherchons encore... Qui nous sommes.
Débordement.
Nous qui cherchons encore quoi faire.
Revue de cinéma.
Nous qui cherchons encore un amour, un toit, un salaire. Nous qui rejetons le monde du travail.
Jean-Gabriel Perriot.
Tel qu'il est. Nous qui le subissons. Nous qui l'avons toujours refusé. Nous qui résistons comme nous le pouvons.
Casser la coquille.
Nous qui vivons en pleine contradiction. Et qu'ils savent nous, qui n'arrivons plus à dire nous, nous, qui n'arrivons plus à dire nous. Nous qui n'avons encore rien construit, nous qui essayons d'élever nos enfants, nous qui débutons dans la vie. Nous serions tous du même côté.